Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le Pérou commémore cette année le bicentenaire de son indépendance arrachée à l'Espagne en 1821 en pleine crise politique avec trois changements de président en 8 jours à la fin de 2020, des manifestations monstres, une violente répression policière. Le Pérou connaît des heures pour le moins mouvementées. Voisins directs de l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie et le Chili, fort d'une longue façade sur l'océan Pacifique, ce champion de l'instabilité politique élira son prochain chef d'État, si tout se passe comme prévu, le 11 avril. Un rendez-vous électoral qui fait suite à une cascade de démissions et de destitutions. 4 présidents se sont succédés à la tête du pays depuis la dernière élection en 2016. Et pour ce qui est des 4 présidents précédents, 3 ont été inculpés pour corruption et le dernier s'est suicidé. 33 millions d'habitants, le Pérou est-il un pays à bout de souffle? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. En studio, Lycelle Quirose, historienne, professeure d'études latino-américaines à CYSRJ Paris Université, coordonnatrice de l'ouvrage « Féminisme et artivisme dans les Amériques, 20e, 21e siècle » aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Bonjour.
Bonjour et merci.
En studio, toujours, Danae Rivadeneira, journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI et doctorante en sociologie à l'Université de Paris, spécialiste en migration internationale. Bonjour.
Bonjour, Marie.
Et par téléphone, Jean-Jacques Ourlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Que se passe-t-il au Pérou sur le plan politique? Pourquoi toute cette instabilité? Quel en est le contexte et l'origine, Lycelle Quirose?
Alors, le Pérou est un pays qui a, c'est vrai, une histoire très instable, mais je n'aimerais pas non plus rester dans une vision tout à fait pessimiste, parce qu'il y a eu des mouvements très importants historiquement, des révolutions, des mouvements populaires et récemment d'ailleurs celui qui a fait que on a finalement désigné un autre président, Francisco Sagasti, c'est issu aussi du mouvement de la population. Donc les Péruviennes et les Péruviens sont actifs et souhaitent un changement. Je pense que ce qu'il faut voir aussi dans cette crise, certes c'est une crise structurelle du pays, mais elle est aussi une demande de la population aujourd'hui que les choses changent politiquement de manière aussi radicale. On en parlera autour de politiques économiques, mais aussi politiques comme la Constitution. Voilà.
Alors, vous le disiez, vous l'avez nommé Francisco Sagasti, qui est le président par intérim. Hein. Il était nommé en novembre dernier, placé pour apaiser la colère. Jean-Jacques Ourlianski, souhait de changement de la population brésilienne. Ce qu'il est important peut-être de comprendre, c'est que, en tout cas, ce qui apparaît avec cette crise, c'est le décalage entre les souhaits de la population et la prise de conscience de la classe politique. Jean-Jacques Ourlianski.
Oui, il y a effectivement un décalage entre ce que pourrait attendre la population et la classe politique, mais c'est le reflet d'une crise politique structurelle. Si on revient en arrière, on rembobine le film, avant la rupture qu'a supposé l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fujimori, en 1985, 4 partis bénéficiaient de la représentation quasiment totale de la population péruvienne aux élections. 2 partis de droite, l'Action populaire, le Parti populaire chrétien, un parti de centre-gauche, la PRA, et un parti de gauche, la IU, la Gauche unie. Aujourd'hui, disons même depuis 2000, depuis le rétablissement de la démocratie, depuis la démission d'Alberto Fujimori, la démocratie péruvienne n'a jamais réussi à retrouver un équilibre. C'est une démocratie très particulière en Amérique latine qu'on a pu qualifier de démocratie sans parti. Les partis politiques ont été volontairement détruits par Alberto Fujimori d'un côté et par Sentier Lumineux en ce qui concerne essentiellement les forces de gauche pendant la même période. Le Pérou politique, le Pérou représentatif, le Pérou partisans, parlementaires, ne s'en est jamais remis. Il n'y a pas vraiment de parti politique au Pérou. Donc si vous regardez ce qui s'est passé depuis l'an 2000, donc on a un éventail de partis politiques dont certains apparaissent à chaque élection puis disparaissent. Une difficulté pour les électeurs à trouver un candidat qui pourraient représenter leurs intérêts. Aux dernières élections du mois de janvier, aucun parti n'a fait plus de 10% de la représentation. Donc c'est un paysage politique assez dévasté qui n'arrive pas à se réformer. Donc pour moi, le problème essentiel est celui-là. Le Pérou, depuis son retour à la démocratie en 2000, n'a pas réussi à construire un système représentatif validé par la population.
Alors, Danae Revadainer, beaucoup de choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Absence de parti politique ou absence de parti politique fort, plusieurs choses à cette crise politique. S'ajoute aussi peut-être une crise du modèle économique qui a été brutalement imposé au pays dans le tour nom des années 1990, avec l'arrivée au pouvoir en 90 de Alberto Fujimori, Jean-Jacques Kourlianski l'évoquait. Et en 1992, le président d'alors, donc Fujimori, et la droite péruvienne imposent un régime néolibéral et pseudo-démocratique.
Oui, tout à fait. C'est un modèle néolibéral qui, au début, a été perçu comme la seule solution pour sortir de la crise économique des années 1985 et 1980, où nous avons atteint des niveaux d'inflation et des dévalorisations de la monnaie qu'on n'avait jamais vu. Pourtant, justement, lors de la crise sanitaire, on se rend compte que cette privatisation des services publics a finalement été négative. Et ce qui est important, je trouve, et qui va en lien aussi avec ce que Lysel Quiroz disait, c'est que c'est la population qui se rend compte de ça. La population même demande, il dit, c'est pas possible que les cliniques profitent des malheurs des Péruviens. Il faut que l'État ait un rôle un peu plus actif. On dit pas changer les modèles néolibéral. Au Pérou, on n'est pas encore là. Mmh. Mais ils disent, il faut que l'État fasse quelque chose. On peut pas continuer comme ça. Je trouve que ça est aussi intéressant dans ces changements de point de vue des Péruviens.
Géopolitique. Marie-France Satin. Alors, je rebondis et je vais plus loin par rapport à ce que vous venez de dire, Danae Revadainera. Alberto Fujimori, en 1990, fixe effectivement un modèle économique fondé sur la privatisation, modèle qui a été à l'origine d'un miracle péruvien, enrichissant les entreprises minières et agricoles, stimulant la croissance et réduisant la pauvreté. Mais il a aussi fait plonger 70% des travailleurs dans l'économie informelle, creusé les inégalités et détruit, vous l'avez dit, les systèmes publics de santé et d'éducation, des failles, Lysel Quiroz, qui sont mises en lumière par la pandémie du coronavirus.
Absolument. On a 12 millions de Péruviennes et de Péruviens qui travaillent dans le secteur informel. Et en effet, il faut rappeler peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne saurait pas que lorsque Alberto Fujimori est arrivé en 1990 au pouvoir, il a instauré cette politique donc néolibérale de libéralisation de l'économie, mais accompagnée d'une politique très autoritaire aussi. Et c'est pour ça que Fujimori, il a été arrêté et mis en prison parce que il est accusé de crimes contre l'humanité. Il faut quand même le signaler. Donc cette politique-là, elle a été mise en place accompagnée d'un système politique très autoritaire, dictatorial pour certains, et en tout cas qui a infligé une répression politique aussi vis-à-vis de l'opposition et en particulier de la gauche péruvienne, ce qui a conduit aussi à ce démantèlement aussi des partis, parce qu'il y a eu une centralisation, une présidentialisation du pouvoir politique au Pérou, ce qui explique qu'aujourd'hui on soit dans cette démocratie sans parti, parce que l'exécutif a une place extrêmement forte. Donc Fujimori a concentré les pouvoirs durant sa décennie d'exercice de son mandat, un mandat d'ailleurs où lui-même il a accentué en fait sa position de pouvoir. Et donc on voit les conséquences. Et aujourd'hui la population, comme au Chili, je dirais que le parallèle avec le Chili est très intéressant, puisque Fujimori avait appliqué le modèle chilien
Pinochet.
De Pinochet, absolument. Et comme au Chili, aujourd'hui la population conteste ce modèle qui était vendu en effet comme le miracle économique, comme pour le Chili. Mais les conséquences sociales, il faut le dire, dans les deux pays aussi, ont été vraiment très, très importantes, parce que bien qu'on ait réduit la pauvreté, on a quand même fragilisé des millions de personnes qui se trouvent un peu entre deux. Et là, la pandémie les a fait de nouveau sombrer dans la pauvreté et l'incertitude.
Alors, Alberto Fujimori, accusé de crimes contre l'humanité. Jean-Jacques Kourlianski, il s'agit là de ce qui s'est passé pendant les années de sa présidence, 1990-2000, le conflit armé, des années qui avaient démarré d'ailleurs dans les années 80, opposant les gouvernements successifs aux guérillas, d'une part du Sentier Lumineux, et d'autre part du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, violence qui a fait quelques 70 000 morts et disparus. Alors précisément, ces mouvements ont-ils disparu? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au Pérou de ces mouvements, Jean-Jacques Kourlianski?
Oui, enfin, le sentier lumineux, le sentier rouge, enfin, il en reste quelques résidus dans une région qui s'appelle Vrahem, au Pérou, mais ce sont vraiment des résidus qui sont liés au trafic de stupéfiants. La population, les Péruviens, s'ils ont condamné Alberto Fujimori, ils sont tout aussi sévères à l'égard de ce mouvement de Sentier Lumineux. Le problème, c'est que Sentier Lumineux a essayé d'éliminer tout ce qui pouvait être gauche réformiste et qui a beaucoup de mal à exister à nouveau. Donc il y a bien une personnalité qui s'appelle Veronica Mendoza qui apparaît dans les sondages, qui se présente aux élections du 11 avril. Mais elle a le profil au fond de toutes ces formations politiques qui peinent à exister depuis l'an 2000, qui sont plutôt des entreprises personnelles, y compris à gauche, et donc qui ont du mal à se perpétuer. Ce sont des entreprises de circonstances qui évidemment sont beaucoup plus sensibles du côté droit et du côté ultra-conservateur, mais qui le sont aussi du côté gauche. On ne dira jamais assez que l'héritage, entre guillemets, d'Alberto Fujimori, de Sentier Lumineux, c'est d'avoir laissé le pays dans une situation de sinistre, non seulement économique, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine où les mêmes politiques ont été pratiquées, mais un sinistre de la représentation politique, et que tous les efforts en vue de modifier d'avoir une nouvelle constitution ont pour l'instant échoué. Donc c'est le grand défi qui va se poser au futur président de la République péruvienne, c'est d'essayer de poser la pierre d'une nouvelle constitution, d'un nouveau contrat social, sans pouvoir s'appuyer de façon évidente sur des forces politiques structurées qui pourraient soutenir ce projet. Donc on peut avoir ce qu'on a eu jusqu'à présent, l'élection d'un certain nombre de présidents qui se trouvent en permanence en conflit avec leur congrès.
Alors précisément, vous l'évoquiez, Veronica Mendoza, pour le parti Juntos por el Perú, Ensemble pour le Pérou, déjà candidate, je parle sous votre contrôle, à chacun en 2016, et qui, elle, propose une seconde urne afin de demander aux Péruviens si, à l'instar donc de leurs voisins chiliens, Lissel Quiroz l'évoquait, ils souhaitent changer de constitution et rebattre les cartes du système qui a mené le Pérou à la crise permanente. Et Francisco Sagasti, l'actuel président par intérim, lui refuse d'organiser un référendum sur une réforme de la constitution. C'est bien cela, Danae Rivadeneira?
Oui, mais en tout cas, il faut savoir aussi que Francisco Sagasti, il est à la tête d'un gouvernement de transition. Donc, ce n'est pas vraiment à lui de proposer ce type d'initiative. Ce serait plutôt au nouveau président qui arrive. Et donc, dans ces cas-là, on sait déjà qu'il y a certains partis politiques qui sont pour le changement de la Constitution. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les Péruviens demandent dans ces changements de Constitution. Parce qu'au début, lors de la pandémie, lors des manifestations, c'était ce que je vous avais dit, justement, un rôle plus actif de l'État. Et oui, c'est là. Mais puis, on a fait des sondages, et là, les Péruviens, il y avait un pourcentage quand même important, qui demandait une main plus dure, des mesures plus fermes de l'État vis-à-vis de la corruption. Et puis, il y avait aussi de garder les bonnes relations des familles, ce qui est aussi conséquent avec un pays assez conservateur comme le Pérou, où les droits à l'avortement n'est pas en discussion, où les droits au cannabis, ou tout quoi que ce soit est encore assez loin. Donc oui, on sait déjà que ce sont des propositions faites par les partis politiques. On ne sait pas si elles vont vraiment aboutir à quelque chose et sur quoi est-ce qu'on va focaliser ces demandes.
Alors, on reparlera bien sûr de la pandémie. Pour l'instant, Lysène Quirose, je voudrais rajouter un facteur à l'instabilité politique au Pérou. On ne l'a pas encore évoqué, même si c'était un peu en sous-main, les questions de corruption. 19 juin 2015, Marcelo Odebrecht, président du fleuron industriel brésilien qui porte son nom, est arrêté et accusé de corruption au Brésil. Quel rapport avec le Pérou, nous y venons. Une affaire à l'ampleur d'un scandale international dans laquelle plusieurs personnalités politiques latino-américaines sont incriminées pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent dans l'attribution de contrats publics à Odebrecht. Le système péruvien ne résiste pas à l'onde de choc. Entre 2017 et 2019, tous les présidents de l'ère post-Fujimori sont accusés d'enrichissement illégal. L'ex-président Garcia se suicide. Le scandale Odebrecht, il a provoqué un séisme dans la vie politique au Pérou.
Oui, comme dans d'autres pays, mais en effet, au Pérou, il a révélé cette corruption structurelle, mais qui arrive au sommet de l'État. Et que pour la première fois aussi dans l'histoire, parce que la corruption, elle n'est pas au XXIe siècle. Elle est née au moment même de, je dirais, de la création de tous ces États latino-américains, donc au XIXe. Mais là, pour la première fois, on a quand même, de manière tout à fait visible, suivi d'ailleurs par, et il faut le reconnaître malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à la justice, les pouvoirs judiciaires des pays latino-américains vont quand même donner et participer à visibiliser cette corruption, parce que l'opinion publique, mais c'est encore une fois aussi une question de changement de mentalité, ne supporte plus ce qui autrefois existait, mais qu'on laissait passer, une sorte de patrimonialisation, on va dire, des revenus de l'État. Désormais, toutes ces questions ne sont plus acceptées comme allant de soi. Et donc, on demande que les présidents, surtout les présidents, soient exemplaires et qu'ils ne peuvent pas se trouver mêlés à des formes de corruption institutionnalisée qui sont anciennes. Hein. Elles ne datent pas d'Odebrecht. Odebrecht, c'est vrai que montre les ramifications, d'ailleurs, continentales du sous-continent d'Amérique du Sud. Donc, elles ont un impact très important dans la vie politique péruvienne, dans la mesure où elles montrent comment on arrive au sommet de l'État, que ça soit d'exécutif, mais aussi le pouvoir judiciaire et le Parlement. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui est mise en cause, à partir notamment de ce scandale d'Odebrecht, de montrer comment partout, en fait, la politique, elle ne se gère que par des pots de vin, par des achats de documents, par la vente du silence, enfin, toutes ces formes-là, on n'en veut plus. Et c'est peut-être de là que vient aussi cette demande de changement, de voir dans la Constitution, du changement de la Constitution, une rupture avec ce système politique ancien.
Alors, système politique ancien, quelques mots, Jean-Jacques Roulianski, pour terminer cette première partie d'émission. Lysène Quirose l'évoquait, donc ça vient s'ancrer de façon historique au Pérou. Et c'est vrai que là aussi, l'absence de partis politiques forts fait que chacun peut tirer plus facilement la couverture à soi, probablement.
Oui, le système, en l'absence de partis politiques, ce sont des petites entreprises personnelles qui fonctionnent dans la mesure où le financement de la vie publique de la vie politique n'est pas pleinement garanti, fonctionne avec de l'argent que les différents candidats essaient de faire rentrer de différentes façons. Certains d'entre eux sont eux-mêmes des chefs d'entreprise, donc bénéficient des fonds suffisants pour alimenter leur campagne et obtenir un siège de député, voire au-delà. Alors, quelle va être l'attitude de la population? Ce qui est assez préoccupant, c'est que quand on voit la personnalité qui est en tête dans les sondages, elle est tout à fait dans la ligne de ce qui s'est passé depuis l'année 2000. Celui qui est de loin bénéficie, si les sondages évidemment sont vérifiés, d'une cote popularité majeure, qui arrive vraiment avec le double d'intention de vote par rapport à son suivant immédiat. Monsieur George Forsyth est un ancien gardien de but de l'équipe nationale de football du Pérou et qui s'est affilié au dernier moment à un parti évangéliste Restauration Nationale. Donc ce qui augure mal, si ces sondages se confirment, des changements que l'on pourrait attendre de ces élections.
On poursuivra Jean-Jacques Courlianski dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve ainsi que Danae Rivadeneira et Lysène Quirose après le journal. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur
Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Pérou. Nous retrouvons nos invités, Lycelle Quiroz, historienne, professeure d'études latino-américaines à CY Sergi Paris Université, coordonnatrice de l'ouvrage Féminisme et Artivisme dans les Amériques 20e, 21e siècle aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Danae Rivadeneira, journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI, doctorante en sociologie à l'Université de Paris, spécialiste en migration internationale, et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Danae Rivadeneira, Jean-Jacques Kourlianski, à la fin de la première partie de l'émission, évoquait le favori de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, un gardien de but, je n'ai pas retenu son nom, vous allez nous le redire, gardien de but et affilié au parti évangélique.
Oui, tout à fait. C'est George Forsyth. Il était effectivement un ancien joueur de foot, un gardien de but. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que, exactement comme Jean-Jacques Kourlianski décrivait, il fait partie d'un parti politique qui est une sorte d'entreprise. Jusqu'à l'année dernière, il n'avait pas un parti politique, il s'est juste inscrit. Maintenant, il fait partie. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la liste de George Forsyth, ces anciens gardiens de but, il y a 12 candidats qui ont fait partie de la liste ou du parti politique de Fujimori. Donc, à la fin, si c'est lui qui gagne, donc c'est aussi les gens de Fujimori qui vont être élus. Donc ça, c'est très important à retenir, je pense. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est que c'est une tradition. Les Péruviens votent pas pour les partis politiques, parce qu'il y a un problème des systèmes des partis politiques, mais votent pour la personne. Donc c'est le leader charismatique, dans ces cas-là, George Forsyth, qui concentre l'attention, si on veut. Et un autre élément qui est intéressant par rapport au sondage d'opinion, c'est que la deuxième est toujours Keiko Fujimori. Mais si on regarde la quantité d'anti-votes, quand on pose la question aux gens, pour qui voterait jamais? Les gens disent Keiko Fujimori, 75%. Donc il y a 75% des Péruviens qui ne voteraient jamais pour Keiko Fujimori. Et la deuxième personne, c'est Veronica Mendoza, celle qui représente la gauche péruvienne.
Et voilà. Qu'au Pérou, alors, tout peut changer.
comment expliquer rapidement que l'héritage Fujimori soit toujours aussi présent aujourd'hui au Pérou, 20 ans après son départ?
Eh bien, c'est explique parce que précisément, je pense que cette question de pas d'ancrage des partis politiques, surtout des partis politiques qui représentaient ce qu'on appelait autrefois le peuple, c'est-à-dire les classes populaires en général, et c'était anciennement la PRA notamment, qui s'est complètement disparu dans ces dernières années, dernières années du XXe siècle. Donc Fujimori a occupé, ou le parti de Fujimori a occupé cet espace en fait de entre ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire une attention quand même aux problématiques de ces groupes sociaux qui sont des groupes sociaux urbains des bidonvilles, mais aussi de la campagne, surtout parce que traditionnellement en fait la politique péruvienne se fait à Lima uniquement, qui concentre aujourd'hui un tiers de la population du pays, mais qui oublie et qui voire tourne le dos à toutes les régions qui sont les régions notamment andines et amazoniennes. Et donc le fujimorisme était le seul parti qui, à la fin du XXe siècle et début du XXIe, arrivait quand même, en utilisant bien entendu tout cet argent mal acquis ou de la corruption, pour aller porter la présence de l'État. Il faut dire ça, en fait, l'État s'est renforcé durant la présidence de Fujimori en allant sur place, en étant, c'est vrai, en utilisant tout cet argent. On sait très bien, distribution de colis à la population, ce qui faisait qu'on voyait au moins la présence de ce parti et de cette famille. En plus, à cela s'ajoute, alors je dirais, non seulement la question de ces nouveaux venus, de ces inconnus de la politique qui font que leur charisme s'impose, mais Fujimori aussi, c'est quelqu'un donc qui venait vraiment de l'extérieur. Enfin, ça me fait penser à George Forsyth et d'autres au Pérou. On a tendance à pas trop faire confiance à ceux qui seraient par essence. Par exemple, il n'y a jamais eu de président indigène, autochtone au Pérou. Enfin, et celui qui était représenté, enfin, ou qu'on pouvait penser qu'il était, il n'a jamais revendiqué cet héritage comme Evo Morales, par exemple. Eh bien, on a plutôt confiance à des personnalités qui viennent d'ailleurs. Donc, le fait que Fujimori soit une famille considérée japonaise ou de tradition japonaise, ça aussi avait compté dans ce rayonnement et ce charisme. Et donc,
Donc je pense que c'est de là que vient cet ancrage, alors qui, malgré toute la visibilisation de la corruption endémique aussi, eh bien ça n'a pas réussi à complètement ternir cette image positive de l'homme qui, au moins, durant cette décennie, est allé de village en village, qui a essayé de se présenter. Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est l'image, en fait, qu'ont certaines communautés qui ont vu arriver, eh bien, les Fujimori, ou leurs représentants, pour au moins cette présence de l'État qui, par ailleurs, n'existe pas.
Les Fujimori, parce qu'il y a la fille aussi. D'Anae Rivadeneira.
Oui, je vous disais justement, la fille est. Et je pense que la figure du père est complètement différente à la figure de la fille. Donc la fille, la semaine dernière, a dû s'excuser publiquement en télévision parce qu'elle a dû reconnaître toutes les fautes qu'elle a fait lors du dernier congrès qui a fini avec la démission du premier président de ces 5 ans qui était Pedro Pablo Kuczynski. Donc elle a dû s'excuser, elle a même pleuré en public, mais elle a dit quand même que si elle jamais arrive au pouvoir, elle ferait de son mieux pour que son père soit pardonné et libéré. Ça, c'est, en fait, ça va jouer contre elle parce que les gens sont pas d'accord avec cette décision. Fujimori, il est reconnu quand même comme le synonyme de la corruption la plus grande que nous avons vécue lors des 20 dernières années.
Et Fujimori qui d'ailleurs est reparti au Japon. Pour ce qui est des influences extérieures, on va très vite en parler en évoquant bien sûr la Chine, mais Jean-Jacques Orlianski, la pandémie, le Pérou déplore l'un des pires taux au monde de décès dus à la Covid-19. Évidemment, elle révèle une réalité péruvienne qui était peut-être un peu cachée, cette pandémie, Jean-Jacques Orlianski.
Bon, le Pérou s'est trouvé, comme la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, pris entre l'enclume de services de santé qui ont été très rapidement dépassés, et puis le marteau de l'informalité qui fait que les mesures de confinement et autres ne pouvaient pas être respectées. Et que quelles que soient les mesures qui soient prises, le Pérou, comme les autres pays d'Amérique latine, se sont trouvés face à ces deux défis, augmentation de la maladie et augmentation de la crise économique et sociale. Et alors, je dirais que le paradoxe, c'est que dans la crise politique institutionnelle que connaît le Pérou, ça a été l'un des pays, avec l'Argentine, qui ont le plus rapidement réagi et pris à la fois des mesures barrières, des mesures de confinement, assez lourdes, et des mesures de soutien financier à l'informalité, mais qui se sont révélées insuffisantes, débordées par la situation réelle du pays. On estime que le taux de pauvreté qui était de 20% de la population avant la pandémie serait passé à 32-33% à la fin de l'année 2020. Donc le Pérou se trouve, comme tous les autres pays voisins, espérant que le vaccin puisse apporter une réponse à ces deux défis le plus rapidement possible, avec tous les problèmes que cela pose et qu'ont posé d'autres pays, y compris hors d'Amérique latine, sur les difficultés d'accès au vaccin.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, la Chine aime bien les crises. Avant de parler de celle de 2008, de celle de la pandémie qui sévit depuis un an, juste ce petit rappel, la richesse minière du Pérou en a fait le premier pays du continent dans lequel une compagnie chinoise a investi de manière significative. La société Shougang, qui a acheté une mine de cuivre à Marcona, à l'État péruvien, en 1992. On est complètement dans la présidence d'Alberto Fujimori que nous évoquions à l'instant. Ça a été aussi la première opération pétrolière chinoise sur le continent, avec la CNPC qui a acquis les droits du champ pétrolier de Talara en 1993. En tout cas, en 2008, au bénéfice de la crise, la Chine est devenue le plus important partenaire commercial du Pérou, dépassant les États-Unis et la somme des pays de l'eurozone. Et en 2018, la Chine est son plus grand investisseur. Elle domine dans les secteurs miniers, pétroliers, production d'électricité et transmission d'électricité, logistique, construction d'infrastructures et dans la technologie d'information. Est-ce que, avec la pandémie, la République populaire de Chine, Lysel Quirose et Danae Rivadeneira, est-ce que la Chine apparaît particulièrement bien placée pour développer sa présence commerciale et l'influence politique qui va avec? On l'a pas évoqué, mais
oui. Lysel Quirose. Oui, je pense que pour le cas du Pérou, on le sait pas souvent, mais la présence chinoise au Pérou, elle est pas récente. Enfin, en tout cas, elle date du 19e siècle. Après l'abolition de l'esclavage au Pérou, on a eu une vague d'importation, on va dire, de travailleurs coulis venant surtout du sud de la Chine, donc des Chinois qui se sont installés. Il y a une communauté chinoise qui a été très présente, notamment sur la côte péruvienne et à Lima. Donc déjà, ça compte, parce que je pense que ce rapport culturel historique, notre cuisine, pour vous donner un exemple, c'est vrai que ça semble un peu anecdotique, mais quand même, une de nos spécialités, c'est la cuisine de fusion chinoise-péruvienne, enfin péruviano-chinoise, qui s'appelle le chifa et qui est emblématique, donc qui montre bien ces contacts, ces liens culturels anciens.
Avec l'océan Pacifique, on l'a bien compris.
Oui, absolument. Dans cette ère pacifique, la Chine a joué aussi de ces liens historiques pour renforcer sa présence, et je pense qu'elle ça a bien fonctionné. Comme vous l'avez dit, c'est le premier partenaire économique du Pérou, depuis notamment ce traité de libre-commerce signé en 2010, et qui fait que la Chine représente plus du quart des exportations péruviennes. Et donc, c'est son premier partenaire commercial aujourd'hui. Politiquement, je pense que il n'y a pas de raison que ça ne se traduise pas par une influence politique importante, dans la mesure où on a une communauté chinoise de plus en plus importante aussi qui s'est constituée aujourd'hui, qui réside au Pérou et qui, bon gré mal gré, interviendra de plus en plus aussi dans puisque économie et politique.
Il n'y a pas de candidat d'origine chinoise à l'élection. Du 11 avril.
Non, il n'y a pas de candidat chinois. Non. Mais en tout cas, je pense que dans les médias, l'inversion, l'investissement chinois, les capitaux chinois sont bien perçus, en tout cas. Parce qu'on fait les liens. On dit l'économie chinoise est la seule à avoir augmenté son PIB lors de la pandémie. Mmh. Alors, si nous continuons à vendre les cuivres, les matières premières à la Chine, ça va aussi nous rapporter quelque chose du bénéfice. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Si on regarde rapidement les médias, c'est ça qui relève les journaux, surtout, qu'il faut continuer avec la Chine à l'exportation des matières premières.
C'est ça qui a une bonne image, contrairement aux États-Unis, qui n'a pas cette... là, on a une... disons cette bonne image de la Chine qui joue en sa faveur, je dirais.
Alors on va parler des États-Unis. Jean-Jacques Konlianski, juste se rappelle, mais parce que moi j'en ai fait la découverte en préparant cette émission, les chiffres sont tout de même assez époustouflants. Les compagnies chinoises aujourd'hui au Pérou, c'est 25% de la production de cuivre péruvienne, 100% du fer et 35% des revenus pétroliers. Ça c'est pour les investissements chinois. Et vous l'avez dit, le commerce de la Chine avec le Pérou, 24 milliards de dollars en 2019 contre seulement 14,8 milliards avec les États-Unis, et la balance commerciale du Pérou avec la Chine qui est par ailleurs excédentaire et favorable à Lima. Jean-Jacques Kourlianski, la Chine, clé de sortie de crise pour le Pérou?
Oui, tout à fait. Ça peut être considéré comme quelque chose de négatif, mais ça aussi, comme ça vient d'être dit, un côté positif, d'autant plus que la Chine est le premier pays du monde à être sorti de la crise économique provoquée par la pandémie. Donc la machine chinoise, recommençant à produire, elle a besoin des matières premières du monde entier, et en particulier de celles du Pérou, qui peut... Il semblerait d'ailleurs que la Banque mondiale ait signalé que le Pérou serait probablement le pays connaissant, après avoir connu la chute dans son taux de croissance et du PIB la plus importante d'Amérique latine en 2020, pourrait connaître le taux de croissance le plus élevé en 2021, tout simplement parce que l'économie péruvienne est finalement liée au rythme et à la conjoncture chinoise. Un dernier exemple, s'il en est, qui est lié à la crise du Covid-19, c'est le 6 janvier, le gouvernement péruvien a signé un accord avec la Chine, avec le laboratoire Sinopharm, qui sera le principal fournisseur de vaccins Covid-19 au Pérou. Le Pérou a d'ailleurs travaillé avec ce laboratoire tout au long de l'année de 2020. Il semblerait, d'après ce qui a été signalé, que plus de 12 000 Péruviens auraient participé aux essais de phase 3 élaborés pour l'élaboration du vaccin de ce laboratoire chinois.
Alors, la Chine au Pérou, c'est aussi un engagement sur le plan militaire, vente d'armes, visite institutionnelle, formation, exercice militaire, c'est juste pour mentionner cela. Je voudrais qu'on parle de la question des États-Unis. À Washington, la nouvelle administration de Joe Biden est en plein travail de reformulation de son approche latino-américaine. La présence chinoise grandissante au Pérou et ailleurs en Amérique latine est évidemment dans l'esprit de la nouvelle équipe. Les États-Unis voudraient bien travailler à être une alternative. Le Pérou, pour les États-Unis, il a un rôle important dans l'hémisphère. Washington en a besoin pour sa sécurité et sa prospérité. Comment les États-Unis sont-ils vus, Lysel Quiroz et Danaïr Rivadeneira, au Pérou?
Alors, je pense
Lysel Quiroz.
Oui. Alors, les États-Unis, il y a toujours, comme dans d'autres pays de la région, hein, une relation assez conflictuelle, c'est-à-dire entre l'admiration, l'envie et la crainte de ce pays du Nord. Mais je pense que les États-Unis, en fait, pour les États-Unis, du point de vue des États-Unis, le Pérou, c'était pas le premier pays qui intéressait. Et puis il y a eu toute une phase où l'Amérique latine, justement, les rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine ont bien évolué à la fin du XXe siècle. Et le Pérou, la seule priorité était la question de du narcotrafic. Mmh. Donc, ils ont concentré tous leurs efforts, participation économique autour de cette question et de l'anéantissement de tous les la culture de la feuille de coca et en évacuant les autres aspects économiques. Donc là, on a un peu le résultat de cette politique un petit peu répressive et qui a fait que on a par exemple dans le pays une image de ces États-Uniens qui arrivent pour réprimer et qui ne proposent pas d'autre chose. Donc là, on est est-ce que ça va changer avec la présidence Biden? Bon, à voir, parce que là aussi, c'est un sujet politique extrêmement complexe aux États-Unis. Mais en tout cas, depuis le Pérou, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la Chine bénéficie d'une meilleure image, alors que, comme vous le dites, il y a une politique, on va dire peut-être plus soft power, mais quand même de présence importante, y compris militaire. Mais les Péruviens le voient d'un meilleur œil, peut-être par ces liens aussi historiques anciens avec le pays.
Alors, pour ajouter à cela, le Pérou, donc, qui a une meilleure image de la Chine que celle des États-Unis, c'est dire, Danaïr Rivadeneira, que le travail du côté de Washington, il est important.
Le travail de
pour récupérer une image plus favorable en Amérique latine, qui est probablement le continent au monde où le duel États-Unis-Chine est le plus exacerbé.
Oui. En tout cas, il faudrait que Washington fasse un travail plus important pour déjà au niveau d'image. Je pense que justement, on le disait, si on regarde dans les médias, en lisant les journaux, on parlait plus de la Chine que des États-Unis. Quand on parlait des États-Unis, c'est plus les côtés anecdotiques avec la présidence de Trump. C'était pas vraiment, on parlait d'économie, de comment ça allait changer. Donc, en tout cas, oui, comme on disait aussi Lysel Quiroz, c'était plus l'image liée à la coca, aux ONG, à voir comment on éradiquait les plantations de coca. C'est là que voir vraiment l'influence dans l'économie péruvienne.
Et d'un côté, une attitude très répressive. Merci. Et de l'autre, une attitude plus souple. Merci, Danaïr Rivadeneira. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI, doctorante en sociologie à l'Université de Paris et spécialiste en migration internationale. Merci aussi à Jean-Jacques Ourlianski qui était avec nous par téléphone, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Et en studio également, Lysel Quiroz, historienne et professeure d'études latino-américaines à CY Sergi Paris Université, coordonnatrice de l'ouvrage « Féminisme et activisme dans les Amériques, 20e-21e siècle » aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.